est blanche.
Lors de notre dernier tournage, Nicolas Hernandez, le CEO de 360 Learning, a tout bousculé. Le rubriquage du podcast balayé, le storytelling oublié. Il avait des messages à faire passer et il l'a fait. Et vous savez quoi? On a adoré ça. Et pour éviter de me faire surprendre, cette fois-ci, je propose à notre invité du jour de nous dire tout de suite où il veut nous amener aujourd'hui, quelles sont ses réflexions, ses convictions, ses combats. Clément Rey, bonjour.
Bonjour.
Tu es le cofondateur et CEO d'Innovafeed. C'est quoi le menu du jour?
Ah, écoute, je vais pas forcément faire la même chose exactement. Je suis beaucoup plus consensuel. Tu vas faire exactement la même chose que ton précédent invité. Mais quels sont les thèmes qui m'intéressent de creuser avec toi? Je pense qu'il y a celui de notre système alimentaire. Il y a celui de la décarbonation de notre industrie. Il y a celui de l'impact de l'industrie sur notre tissu social, il y a celui de la parité, il y a celui de la construction d'une organisation humaine harmonieuse au service d'un projet, la façon dont cette organisation humaine vit en symbiose avec un projet entrepreneurial et la mission qu'il poursuit. Ça fait déjà
c'est un beau programme. Eh ben, je te propose du coup de lancer les hostilités et ton 40 nuances de Next.
40 nuances de Next.
The Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon.
Ils sont 40. 40 entrepreneurs, 40 champions de la tech française. Comment sont-ils arrivés là? À quels enjeux font-ils face? Quels sont les ressorts qui les ont forgés? Je suis Thomas Benzazon, cofondateur du Brain Studio Feuille Blanche, et avec mon compère Olivier Mathieu, cofondateur de Price Minister, DG du Fonds 2050, président de The Camp et vice-président de France Digital, nous vous plongeons dans l'univers de ces entrepreneurs d'exception et les coulisses du Next 40. Ils répondront à nos questions, à celles d'invités surprises, tout comme à nos partenaires que sont La Tribune, Madinès, France Digital, La French Tech et Neuflys OBC. Vous en voulez plus? Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs.
Avant de dérouler tous les sujets, Clément, tu le sais, sur 40 nuances de Next, on aime montrer que la réussite d'un entrepreneur, c'est un sujet plus complexe qu'il n'y paraît, que même si on a été amené à lever des millions, à devenir référent sur son marché, à entrer dans le beau palmarès du Next 40, la route a été longue pour y arriver. Et tu m'as promis un épisode sans bullshit, même si tu as dit être un peu plus consensuel que notre dernier invité, je demande à voir. Mais du coup, pour servir la communauté entrepreneur, je te propose de mettre tout de suite dans le bain en partageant ta plus grosse connerie d'entrepreneur.
Ok. effectivement.
On démarre. Après, on est plus gentil.
Ouais. Écoute, je pense que la plus grosse connerie que tu fais, c'est de ne pas te rendre compte que ton projet a changé et de vouloir, par, je pense, manque d'imagination et affection pour la trajectoire, vouloir rester sur le statu quo.
L'idée, j'avais raison, donc on y arrivera.
Ouais, et même plus, enfin, ce à quoi je pense en particulier, c'est se dire, on est arrivé jusque là, de cette façon-là. Trouver l'énergie et la lucidité de te rendre compte que si tu poursuis avec les mêmes règles et les mêmes recettes, et ben quelque part, ce qui a fait ta réussite dans le passé va te faire te planter dans les prochains mois et les prochaines années. Et je pense que j'en suis un peu rendu compte, par exemple, au début de l'année dernière, où on avait énormément grossi. On avait plus que doublé de taille en 2019, 2020, 2021. Et le projet rentrait dans une phase un peu différente. On avait réussi à construire l'écosystème, construire le business model, développer la technologie, en rentrant dans une phase d'industrialisation où les dimensions d'exécution était beaucoup plus prégnante, beaucoup plus forte que ce qu'on avait, que ce qui avait été le cas dans le passé. En tout cas, à une échelle différente, avec une complexité différente. Et je pense que moi, à ce moment-là, j'avais envie de le faire de la même façon que j'avais aimé le faire et de ce qui avait en fait assez bien réussi jusqu'à présent. Faire de la même façon, c'est avec la même gouvernance, avec la même culture et avec le même type de profil. Et je pense qu'en fait, ces recettes-là ne permettaient pas de gérer la complexité, les paramètres devenaient...
C'est quoi le déclic ? Parce que du coup, je comprends bien l'enjeu. Tout évolue, ton marché, ce qu'il te demande. Quand on parle d'erreur d'entrepreneur, alors, j'imagine que si t'es capable d'en parler aujourd'hui, c'est que ça a changé. N'empêche qu'il a fallu un déclic pour se dire, là, on tourne toujours de la même manière et ça peut pas continuer comme ça.
Bah, le déclic, c'est la combinaison de deux choses. C'est la combinaison du fait qu'on est, j'étais pas tout à fait satisfait des résultats. Et c'est aussi, en fait, le fait que d'autres personnes étaient plus lucides que moi sur ce sujet, notamment mes associés, par exemple.
Aude
et Bastien.
Et Bastien.
Quelques exemples très, très concrets. On avait construit cette boîte de façon assez décentralisée. On était vraiment un vrai partnership. On pilotait chacun une partie de la boîte, ce qui faisait qu'on était assez régulièrement dans le consensus mou. Les roadmaps pouvaient diverger et même les cultures dans différentes parties de la boîte pouvaient diverger.
Il n'y avait pas un pilote dans l'avion.
En fait, il y avait trois pilotes qui essayions de nous coordonner.
Oui, avec trois avions qui doivent voler en parallèle.
Et ça a très bien fonctionné, je pense, lors des 5 premières années d'InnovaFeed. Et on avait besoin, à un moment donné, de davantage de cohérence, davantage d'arbitrage.
De liant,
et de liant. Et pour moi, cette prise de décision de changer cette gouvernance à laquelle j'étais très attaché a été compliquée. Et Aude et Bastien étaient beaucoup plus lucides que moi sur ce besoin. Sur les types de profils hein, également qui avaient fait jusqu'à l'innovation, on avait beaucoup. Ce qu'on recrutait, c'était sur le drive, l'énergie, les capacités analytiques et de structuration. Et donc, on avait en fait beaucoup de profils relativement jeunes, très conceptuels, généralistes. Et en fait, on avait, avec ce changement de phase, besoin d'adapter aussi ces profils-là. Hein. C'est-à-dire, on a besoin aussi de gens plus pragmatiques, plus expérimentés, capables de gérer
Le changement de phase, c'est lié à la levée de fonds ?
Non, c'était avant la levée de fonds, en fait. C'était concomitamment, ce début. Ouais. Mais c'était le fait qu'on avait atteint une taille d'organisation, 250 personnes, avec des projets industriels à très grande échelle, sur lequel en fait les feuilles de route devaient être tenues de façon extrêmement précise, les périmètres devaient être très clairs et les choses ne devaient pas se chevaucher.
Ouais. Ben, je te propose quand même qu'on comprenne un peu plus spécifiquement pour ceux qui ne connaîtraient pas InnovaFeed. Et pour ça, alors on va faire le jeu du pitch. Pitch, oh mon pitch. Pitch, oh mon pitch. Avec le même sourire chantonnant, j'espère. InnovaFeed aujourd'hui, c'est une vision, une mission et pour tout ça, une activité. Tu peux nous en dire un mot ?
Ouais, je pense que fondamentalement, ce qu'on souhaite faire, c'est construire le système alimentaire de demain qui permette aux prochaines générations de continuer à avoir, à bien se nourrir, tout en respectant les contraintes de notre planète. En fait, on n'en parle pas si souvent que ça, mais l'impact du système alimentaire sur la planète est considérable. C'est 25% des émissions de CO2 au niveau global.
On ne parle pas que de la viande.
On ne parle pas que de la viande. Ça fait partie des sujets, grands, mais il n'y ouais. a pas que ça. C'est beaucoup plus complexe. Ouais. Et c'est également en fait un impact énorme sur la biodiversité parce que 80% de la perte de biodiversité est liée directement
ou indirectement
au système agroalimentaire, ouais. à la surpêche, à la déforestation, à l'utilisation de pesticides. Donc c'est vraiment un sujet majeur. sur lequel des innovations sont nécessaires. Et l'idée, c'est de pouvoir optimiser certaines chaînes de valeur critiques de système alimentaire, celles de l'aquaculture, celles de l'élevage volaille, celles de la fertilisation, qui vont permettre de réduire, de continuer à bien manger, donc ce qu'on aime manger, mais faire en sorte que le saumon qu'on consomme, la crevette qu'on consomme, les légumes que l'on consomme aient moins d'impact carbone et moins d'impact sur la biodiversité. Et ça, on le fait, en fait, en réintroduisant l'insecte dans le système alimentaire. Et c'est pas plus compliqué que redonner à l'insecte la place qu'il a dans la nature.
Qu'il a toujours eu.
Qu'il a toujours eu. Et sa place, c'est en fait de recycler des déchets, des fruits en décomposition, par exemple, et de le transformer en humus. Et ce faisant, de réinjecter dans la chaîne alimentaire des nutriments, parce que ces insectes sont à leur tour mangés par des oiseaux, des poissons, des petits mammifères. Un des principes de circularité de la nature qu'on essaye de réintroduire dans le système alimentaire. Un autre élément de la vision, c'est que cette idée, on a envie de... Si on veut qu'elle ait un impact systémique, il faut qu'on la développe à grande échelle. On ne soit pas en fait dans la logique d'insectes à l'apéritif, mais qu'on soit dans une logique, on va dire, comment faire pour que ça soit présent de façon extrêmement significative
dans toute la chaîne.
Et pour que ça soit le cas, il faut que tu développes un modèle compétitif. Et ça a été vraiment notre étoile du Nord depuis qu'on a lancé le projet en mai 2016. C'est comment tu développes
une industrie,
ta plateforme technologique, ton industrie, ton modèle, de manière à être le plus compétitif sur le plan économique et aussi sur le plan environnemental. Et c'est ce qui est assez intéressant, c'est que dans ce domaine, souvent les deux vont de pair, en fait.
On parle d'alimentation aujourd'hui animale et végétale. Et je veux bien des exemples très concrets d'utilisation.
Bon, on a commencé par la truite, par exemple, en 2018. Donc c'est des truites dans leur aliment, on a remplacé ce qu'on appelle les farines de poisson par des protéines d'insectes. Qu'est-ce que c'est que les farines de poisson ? C'est des petits poissons pêchés en fait sur les côtes africaines ou d'Amérique du Sud, donc des anchois, des sardines, des harengs, transformés en farine et qui sont des ingrédients essentiels pour nourrir d'autres poissons. Ce qu'on a démontré, c'est que la protéine d'insecte peut remplacer cet ingrédient en ayant des meilleures performances dans l'alimentation des truites.
Donc, question bête, peut-être. Je suis pas expert en tout, mais dans la nature, ces truites, elles mangeaient naturellement d'autres petits poissons ou plutôt des insectes.
Les truites, ça mange des insectes.
Ça mange des insectes à la base.
Quand tu vas pêcher de la truite dans une rivière,
tu vas avec
des vers de terre ou des.
Ouais.
Des...
Et alors du coup, c'est l'industrie qui a amené un changement d'alimentation de ces animaux pour pouvoir produire à grande échelle et nourrir la planète. Et du coup, vous remettez, vous industrialisez, mais quelque chose qui était très naturel dans l'alimentation du.
Oui, l'idée
de l'animal.
L'idée de base s'inspire quand même dans la nature. Moi, je suis quand même assez, en termes de vision de ce que je veux que notre système alimentaire soit. Je pense qu'en fait, c'est la façon de ce qu'on nourrit, ça nous connecte à la terre, ça nous fait de nous quelque part, c'est notre côté animal incarné. Et je pense que notre système alimentaire doit rester inspiré la nature. Il y a beaucoup d'autres contraintes aussi. Hein. Il faut que ça soit abordable, il faut que tout le monde puisse bien manger, il faut que ça préserve la planète, mais la naturalité est un idéal pour moi, et c'est ça aussi qui a inspiré InnovaFeed. Voilà, c'est un exemple, ouais. La truite, mais aujourd'hui c'est le cas des saumons, c'est le cas des crevettes, c'est le cas des volailles, les vignes sont fertilisées avec des engrais à base de
sur le végétal, ok,
des choses de ce type.
Et alors sur le végétal, donc c'est du humus, non, comment on appelle ça?
Ouais, c'est des engrais organiques, mais et quelque part
et c'est efficace.
c'est efficace, ça stocke du carbone dans le sol et c'est vraiment en fait c'est vraiment une logique de circularité parce que si tu prends quelque part, si on regarde comment ça fonctionne, tu plantes du blé par exemple, le blé a besoin de quoi pour pouvoir se développer? Il a besoin de nutriments. Il a besoin son carbone et son oxygène, il va le trouver dans l'air. Et dans le sol, il faut qu'il trouve des nutriments qui sont de l'azote, du phosphate, de la potasse et d'autres éléments. Et donc, on doit apporter dans le sol ces éléments-là. Nous, notre modèle, c'est de se dire, ce blé pousse, ce blé est transformé en différents produits. Ces processus de production génèrent des déchets. Ces déchets sont transformés par les insectes en protéines et la production d'insectes génère en fait des déjections. Ces déjections forment des engrais qui retournent dans la terre et qui ramènent ces nutriments à base d'azote, de potasse dans les sols. Et donc, on n'a plus besoin de les amener par des engrais chimiques qui utilisent notamment des hydrocarbures. Donc, c'est vraiment aussi une logique de circularité, de fermeture de la boucle de l'azote, notamment.
Et alors, je trouve ça intéressant, la vision globale, mais entre la vision de départ, jusque là où c'en est arrivé aujourd'hui, tu vois, cette notion de circularité, c'est-à-dire que finalement, nos insectes produisent des déchets. C'était dès le départ une idée que vous alliez faire quelque chose de ces déchets, ou en fait, dans la vie de l'entreprise, à un moment, on se dit, on a des déchets, qu'est-ce qu'on en fait? Et tiens, en plus, ça peut être un business model supplémentaire pour grandir.
Non, ça ce point spécial, ce que tu dis s'applique à d'autres petits sujets, mais ouais. ces enjeux des déjections fait partie du modèle depuis le début. Et on a eu une vision de se dire, comment est-ce qu'on en fait pour construire le modèle le plus local possible, le plus circulaire possible, à plus faible impact. Et donc j'y reviendrai, mais c'est pour ça qu'on s'est implanté dans le nord de la France, ouais. Premier gisement européen de coproduits agro-industriels, beaucoup de sucreries, beaucoup d'amidonneries. Qu'on a mis notre pilote industriel ici à partir de fin 2017, et c'est ici qu'on a construit notre premier site à très grande échelle, notre première ferme verticale à très grande échelle, et on est allé jusqu'au bout de cette logique de circularité, parce qu'on l'a construite en colocalisation avec ce qu'on appelle une amidonnerie de blé, qui génère en fait les déchets qu'on utilise pour nourrir nos insectes.
C'est ce que vous évoquez quand vous parlez de symbiose industrielle.
Absolument.
C'est ça.
Ouais. Et ça, c'est décisif sur le modèle. Je pense que l'insecte en tant que tel est efficace, converti à un cycle de vie très court, converti très bien les nutriments. Mais ce qui fait la performance environnementale de Novafeed, au-delà de l'insecte, c'est son modèle de symbiose industrielle. Alors, si on dit deux mots de ce modèle, parce que je trouve qu'il est vraiment essentiel dans notre vision.
Mais aujourd'hui, où tout le monde cherche à changer de modèle, à avoir un impact, c'est intéressant d'aller creuser justement ces sujets-là chez chacun.
Ouais. Et quelque part, l'idée, ce qui nous a amené à construire ce modèle, c'était l'idée de départ qu'il faut qu'on construise le modèle le plus compétitif possible, aussi bien sur le plan économique qu'environnemental. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un benchmark, qui sont ces farines de poisson, qui ont un prix de vente. Il faut que notre coût de production soit inférieur. Et ces farines de poisson, qui ont un impact carbone, il faut que notre impact carbone soit inférieur. Comment est-ce que l'on fait pour construire un modèle qui le permette? Tu construis ta base de coûts, tu te rends compte que tes deux premiers postes de coûts, c'est ta matière première pour nourrir les insectes et ton énergie. Comment je fais pour pouvoir les optimiser? Et c'est là, en fait, que tu deviens créatif. Quand tu es sous contrainte, tu deviens créatif. On dit, on va aller on va éliminer le coût de transport de ces matières premières. On va construire nos sites colocalisés avec les industries qui génèrent ces coproduits. Des gisements suffisamment profonds de plusieurs centaines de milliers de tonnes. On va connecter notre process avec le process qui produit ces déchets. Et on va également, en fait, comprendre de façon précise le processus de production de ces déchets, de manière à éviter certaines étapes de transformation de ces déchets, notamment de séchage, de manière à réduire l'empreinte énergétique, l'empreinte carbone des industries qui sont en amont de Novafeed. Et c'est décisif parce que ça réduit d'une trentaine de pourcents notre coût d'approvisionnement et ça réduit de 50% notre empreinte environnementale.
Et côté fournisseur du coût de déchets, de leur côté, il y a aussi un intérêt?
40% de leur facture énergétique correspond en fait au traitement de ces coproduits, de ces déchets. Le fait qu'on se colloque, ces aménageries font partie des 50 premiers sites émetteurs de CO2 en France. Et donc, c'est un enjeu dans le cadre de la démarche SBTI, où on essaye de, où il y a des objectifs très ambitieux de réduction des émissions de CO2. C'est certainement le levier le plus puissant identifié pour la décarbonation de ces sites. Donc, effectivement, il y a un intérêt mutuel, une création de valeur qui est partagée entre nos partenaires en amont et nous-mêmes. Et on a fait la même chose sur l'énergie, parce que pour pouvoir réaliser notre production, on a besoin d'énergie, mais on a récupéré de l'énergie, ce qu'on appelle fatale. Donc, c'est de l'énergie qui était jusqu'à présent, en fait, dispersée dans l'atmosphère, qui n'était pas utilisée sous forme de d'eau basse température. Et aujourd'hui, 2/3 de notre approvisionnement en énergie provient de ces énergies fatales grâce aux investissements de récupération d'énergie qu'on a fait sur le processus de nos mêmes partenaires industriels.
C'est un vrai cercle vertueux. Quand on parle pas de symbiose industrielle pour rien. Alors j'ai une question. Notre partenaire France Digital avec sa directrice générale Maya, je te propose de l'écouter. Ça fera le pont.
Vous avez un message.
Bonjour Clément. Depuis plus de 10 ans, France Digital représente les intérêts des startups, notamment pour leur permettre de mieux financer, mieux recruter et passer à l'échelle. Aujourd'hui, le terme de startup industrielle est très à la mode. Peux-tu nous expliquer en quoi cela diffère d'une startup plus classique et quels sont selon toi les nouveaux combats que nous devrions mener ?
Alors, je pense qu'effectivement, c'est intéressant parce que on voit l'émergence de quelques startups industrielles, notamment au sein du Next 40, des entreprises comme Vercor, des entreprises comme il y a Afiren, il y a Exotech, il y a Insect, Innovafit bien sûr. Et je pense qu'en fait, on est des animaux très différent de nos confrères dans la tech.
En quoi ?
Par l'impact et par les contraintes. En termes d'impact, il faut savoir en fait que l'industrie est à mon sens plus inclusive que la tech au sens où ça concerne tout type de profil, tout type de territoire. C'est quand même un phénomène un petit peu... La tech, on a besoin de talents très, très particuliers. Il y a un phénomène de polarisation de la société qui peut en découler si on ne fait pas attention. Où une partie de la population extrêmement qualifiée, urbaine, est capable, en fait, de créer des modèles extrêmement scalables, mais sans forcément
sans
inclure...
Que ça profite à tous ou que chacun ait des opportunités de... d'y faire une place.
Et en tout cas, l'industrie permet en fait de faire société au sein d'un projet avec des profils très différents. Des profils qui vont concevoir des équipements, développer en fait des algorithmes pour gérer la data et comprendre la technologie, mais aussi des profils qui vont opérer des lignes de production, qui vont faire tourner des sites industriels et qui sont pas sur les mêmes géographies souvent. Et ça permet en fait à l'ensemble de ces populations de travailler ensemble dans un même but, dans un projet commun. Et ça, quelque part, c'est très fédérateur et c'est une très forte cohésion. Et je pense que c'est l'impact sociétal de l'industrie et en ce sens différent de l'impact sociétal de la tech. Donc, pour moi, c'est un premier point qu'on néglige parfois. Et également, en fait, l'industrie, je pense que c'est assez clair aujourd'hui, une industrie forte est nécessaire à la prospérité d'un pays. Et aujourd'hui, une industrie forte demain, c'est une industrie qui arrive à anticiper les contraintes de décarbonation. Si on veut être un grand pays industriel, il faut qu'on arrive à imaginer des solutions de décarbonation de notre industrie qui seront absolument critiques dans 5 à 10 ans. Et ça, souvent, en fait, on a besoin d'innovation. Et donc, les startups industrielles, Innovafit n'est pas le seul exemple, apportent ces solutions, développent différentes phases, sont capables de prendre ces risques pour pouvoir apporter des solutions à d'autres industriels.
Tu es en train de me dire que des solutions techno que vous avez développées et mises en place pour Innovafit peuvent être appropriées dans d'autres secteurs, d'autres industries.
Alors, Oui, potentiellement dans un second temps, mais même dans le logique d'écosystème, dans les liens qu'on peut que peut faire en multipliant des sites comme celui qu'on a construit à Nesle en Picardie,
avec les sucreries,
peut contribuer à décarboner et du coup améliorer la compétitivité de tout cet écosystème. Donc je pense qu'en fait, oui, c'est vraiment une logique d'écosystème. Donc là, j'évoquais en fait en quoi les startups industrielles diffèrent de l'écosystème tech par leur impact. Et après, on diffère aussi en termes de contraintes. Tu vois, en termes de contraintes, parce qu'on n'est pas sur les mêmes pas de temps. Mine de rien, il existe quasiment aucun projet industriel qui soit parti de zéro, qui atteint un niveau de rentabilité en moins de 10 ans. Il faut que tu passes...
Là, c'est Cocorico ?
Non, je pense qu'on est encore dans une phase d'investissement chez Novafide. Parce que tu passes par différentes phases. Tu passes par le stade de laboratoire, puis après le stade de pilote, puis après un stade de site à échelle qui est souvent modulaire, avec des phases de ramp-up, des délais administratifs. Donc c'est vraiment en fait des sujets de long terme, avec des capitaux importants pour le développement de la technologie, pour l'industrialisation des solutions. Et après des flux financiers qui sont plus pérennes, parce qu'il y a aussi une forte stabilité des sociétés industrielles. C'est pas sur les mêmes patterns. Mais il faut des investisseurs qui soient qui comprennent en fait
cette notion de temps,
cette différence. Et souvent les pas de temps de 5 à 7 ans ne sont pas complètement compatibles avec les contraintes de projets industriels.
Ça vous a pas empêché de lever?
Oui, on a levé avec des acteurs qui ont un ADN bien particulier. On a levé en fait donc le dernier tour de table de 250 millions d'euros. On l'a fait avec des fonds souverains, des family office et des industriels. Et c'est assez intéressant de comprendre pourquoi, parce que quelque part les fonds souverains, c'est leur philosophie. C'est d'investir les ressources d'une génération pour la génération suivante.
Ouais.
C'est vraiment ça leur philosophie. Et donc, du coup, ils parient sur des méga-trends. L'alimentation de demain, par exemple. La décarbonation de notre industrie. Et ils n'ont pas des contraintes de restituer de l'argent au LP sous une durée de 5, 7, 10 ans. Et donc, c'est compatible avec une vision très long terme, comme celle que pousse Innovafide, comme celle que poussent beaucoup de startups industrielles. Un family office, c'est un peu la même logique. Notamment, en fait, on a un family office qui nous accompagne depuis 2018, qui est Créadef, celui de la famille Mullier, qui, dans une certaine façon, aussi investit les ressources d'une génération pour la régénération suivante. Donc, c'est le même type de logique.
De philosophie, oui.
Et après, les industriels, ils sont aussi souvent des visions long terme. Et là, en l'occurrence, c'était assez intéressant. On a fait rentrer, en fait, au capital le numéro 1 et 2 mondial, Cargill et ADM. Numéro 1 et 2 mondial de l'agroalimentaire. C'est la première fois qu'ils investissaient ensemble dans une même société. C'est un peu comme si Google et Apple investissaient dans la même société, pour la tech. Et ça, c'est dans une logique de pouvoir renforcer la logique d'écosystème, de pouvoir déployer notre plateforme technologique de façon globale sur l'ensemble des sites qu'opèrent ces acteurs de manière à les décarboner.
Je vais revenir après sur l'impact de cette levée, le fait d'y aller avec des industriels, ce que ça peut avoir comme impact et comme échange aussi au sein d'un COMEX ensuite. Pour rester sur les contraintes que tu évoquais, j'imagine que c'est pas la seule, cette notion de temps. Start-up industriel versus start-up plus classique.
Oui, c'est la notion de temps, l'impact de cette temporalité sur les types de financement nécessaires. T'as bien sûr, en fait, mais ça, je pense que c'est pas spécifique aux startups industrielles, des contraintes réglementaires qui en fait en France sont encore parfois un peu plus lourdes que dans d'autres pays européens, qui ralentissent davantage.
Typiquement, c'est pour la mise sur le marché d'une solution comme la vôtre au début, c'est pour monter sa première usine verticale, c'est où est-ce qu'il a fallu soit être patient, soit, soit grincer un peu des dents.
Donc, t'es pas très patient, mais. C'est, en l'occurrence, l'exemple qui me vient en tête, c'est le temps nécessaire pour pouvoir construire ta ferme verticale. Entre le moment où ton projet est ficelé, financé, le design prêt et les autorisations nécessaires, qu'on appelle autorisation ICPE, qui te permettent de poser la première pierre de ton site.
Donc tout ça, c'était bouclé?
Oui, et... Ouais. Tu as besoin d'un délai d'instruction en France qui est de l'ordre de 12 à 18 mois, dans le cadre d'un processus qu'on appelle un processus d'autorisation ICPE. Là où aux Pays-Bas, ce processus met 4 mois. Donc, c'est un sujet qui est identifié par le gouvernement, ils y travaillent. Mais c'est aujourd'hui, en fait, un boulet qu'on se met au pied, parce que le temps, l'agilité, la célérité pour des projets très innovants est critique. Et une différence de 1 an. Est extrêmement pénalisant pour la France. Je pense qu'il y a des vraies raisons derrière ce processus d'autorisation, parce qu'il y a des consultations publiques, il y a la prise en compte des avis des riverains, l'analyse des analyses environnementales sur la biodiversité. Donc je pense que ce processus est indispensable. Simplement, il peut être fait, il devrait être fait, si on veut, on est vraiment ambitieux sur les logiques de réindustrialisation, plus rapidement que ce qui est fait aujourd'hui.
Les riverains, tiens, c'est une question toute con, mais comme on est, c'est pas tous les jours qu'on a à ce micro une start-up industrielle. Tu vois, je pense à des papeteries, des fois où tu as une odeur, et je comprends que les riverains soient pas très enclins à... Alors déjà, est-ce qu'il y a ce type de pollution, soit sonore, olfactive. Alors, il y a la réalité, et puis il y a ce qui peut être supposé de la part de riverains quand ils vont arriver. Et il y a ce côté qui peut paraître négatif. Puis après, il y a aussi, il va y avoir de l'emploi vers chez nous. Donc, ouais. C'est quoi les retours?
Les gens sont quand même surpris par cette... lorsqu'ils apprennent qu'une ferme verticale d'insectes va s'installer dans le village. En fait, ce qui s'est passé lors de notre dernière implantation, on était allé discuter avec le maire de la ville, le président de la communauté de communes, et assez intéressé par le concept. Et ce qu'on a appris après, c'est que ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils s'étaient rendus en fait dans le village dans lequel on a notre pilote, hein, qui s'appelle Gouzeaucourt, qui est à 40 km d'ici. Ils étaient allés au bistrot du coin. Ils ont demandé, est-ce que vous avez des problèmes avec InnovaFeed?
C'est pas idiot, ils font leur...
Exactement. Est-ce que vous avez des nuisances? Est-ce qu'il y a des insectes qui s'échappent? Est-ce qu'il y a des odeurs? Est-ce qu'il y a du bruit? Les gens étaient plutôt positifs, donc ça les a énormément rassurés.
Ouais.
Après, on a organisé une visite de notre site. Et je pense qu'il y a une logique les élus sont devenus un peu des ambassadeurs du projet, je pense assez séduits par le modèle, par l'impact environnemental, par le côté très innovant, par le côté très ambitieux. Donc c'est devenu des ambassadeurs, et quelque part ils ont une vraie influence sur ce qu'on appelle aux États-Unis une communauté, quoi. Et après il y a eu un vrai investissement qui a été fait d'explication de ce modèle. Ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait organisé quelques réunions avec les riverains, ouverts à tous. On avait amené des insectes, on a expliqué pourquoi est-ce qu'on les élevait, que ça remplacerait des farines de poisson, quelle était la logique derrière le modèle. On a organisé des visites de nos sites lorsqu'il était en construction et lorsqu'il a démarré. Et je pense que au-delà des standards industriels et du respect en fait absolu de tous les sujets de nuisances potentielles, il y a cette ouverture, cette démarche assez proactive et pédagogique qui permet en fait de bien gérer ces sujets.
C'est bon, quand on parle d'insectes qui pourraient s'échapper, on a des idées comme laboratoire pharma ou avec un gros virus qui partirait. Bon, au pire, c'est qu'un insecte, c'est quoi comme insecte?
C'est un diptère, donc la plupart de nos insectes sont des larves en fait, parce que c'est les larves qu'on transforme en fait en protéines. Et les adultes sont des jolies petites mouches. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que le risque de dissémination est quasi nul, parce qu'ils ont besoin d'une température de 30 degrés pour pouvoir se reproduire. Donc c'est aussi pour cette raison que cet insecte a été sélectionné par la Commission européenne comme un des insectes qui pouvait être élevé dans le cadre de cette filière, de cette industrie.
Il y en a d'autres ?
Il y en a 5 qui ont été...
Et vous en avez choisi un sur les 5 ?
Ouais. Ouais.
Potentiellement demain les autres, ou il n'y a pas plus d'intérêt à aller...
Non, la plateforme technologique est quand même très spécifique à l'insecte.
Ouais.
La façon
oui, tu ne mets pas n'importe lequel des 5 dans...
Non, okay. Non, c'est des procédés très différents, c'est des génétiques très différentes, c'est des formulations de nourriture très différentes, c'est des équipements très, très différents. Donc je pense qu'il y a peu de... Enfin, il y a un vrai investissement pour pouvoir changer de type d'insecte. Et puis celui qu'on a retenu rentre complètement dans cette logique que je te partageais. Quelle est en fait, ce qu'on avait fait les quelques premiers mois du projet, c'est qu'on s'était dit quels étaient les grands choix stratégiques qui nous permettent d'avoir le modèle le plus compétitif sur le plan économique et environnemental. Quel insecte, quel type de matière première pour les nourrir, quelle taille de site et quel
Quel modèle, j'imagine, de récupération d'énergie.
Exactement.
Pour alimenter tout ça.
Exactement. Et donc là, le choix de l'insecte découlait complètement de cette analyse, ouais. Permettant de réduire en fait, au maximum les coûts de production, tout en maximisant la valeur des produits.
Je te propose de revenir là, du coup, sur ce sujet qu'on a rapidement brossé de la dernière levée, donc des industriels, des family office, des fonds souverains. Est-ce que du coup les discussions sont un peu différentes justement lors des boards ? Est-ce qu'ils sont tous présents ? Est-ce que au-delà des discussions, il y a aussi des ouvertures de marché qui sont notamment avec un Cargill et j'ai oublié le nom du premier.
On a déjà deux actionnaires qui nous accompagnent depuis fin 2018, qui sont Créadev et Temasek. Créadev, famille de Fidémilier, ouais. Et Temasek, fonds souverain de Singapour. Temasek qui est un des investisseurs les plus reconnus dans le domaine des agtech, investisseur dans, je sais pas, Beyond Meat, par exemple, dans beaucoup de...
Tu appelles ça les... t'as dit agtech. Non, tu as
les,
dit...
Les ag-tech.
Oui, c'est quoi?
C'est les technologies autour de l'agriculture de demain.
Agriculture, ag-tech. Ok, non, alors, non, c'est moi.
C'est vrai qu'on dit... Maintenant, il y a un jargon...
Oui, mais pas de problème.
Ag-tech, ag-tech, deep-tech.
Bon, ouais, ouais,
En tout cas, c'est dans le domaine de l'agriculture et des innovations dans ce domaine-là. Ils sont tous les deux au bord d'Innovafeed. On était la plus jeune société dans laquelle Temasek est investi. À l'époque, on avait 2 ans, ils ont investi chez Innovafeed.
Donc il n'y a pas encore l'usine, il y avait...
On avait déjà un pilote, mais j'ai regardé, c'était un sprint, le début du projet. Là, au cours du dernier tour de table, on a fait rentrer 2 autres fonds souverains, QIA et GIC, qui sont des mastodontes.
Quel pays ?
Qatar et Singapour.
Ok, donc, encore, ok.
Et des fonds d'impact qui sont aussi long terme et des industriels. Les industriels ne sont pas au board d'Innovafeed. C'était pour nous nécessaire, c'était un prérequis pour pouvoir en fait avoir une vraie indépendance dans la façon dont les choix sont pris. Et je trouve que les dynamiques sont à mon sens pas très différentes de celles avec d'autres types de fonds d'investissement. Je pense qu'il y a le même niveau d'exigence, le même niveau de soutien, un très très haut niveau de professionnalisme, je trouve, chez nos investisseurs. Mais en même temps, la logique, c'est de dire où est-ce qu'on veut aller, quelle est la vision du projet et quelle est la route. Et cette route, elle doit être tenue, elle doit être respectée. Mais on sait qu'elle est longue.
Ça m'amène à deux sujets. Un premier, sur les pures levées de fonds, on entend que ça se contracte un peu, c'est plus compliqué. Toi qui es dans le jeu directement, dans tes relations avec tes investisseurs ou avec tes copains entrepreneurs, comment tu ressens les choses ?
Oui, je pense qu'il y a eu un vrai... vrai ralentissement depuis, je pense, 12 mois, en fait.
Ouais.
Je pense que les chiffres sont assez clairs. Les perspectives que j'ai, c'est il y a eu quand même aussi une vraie baisse des valorisations, ouais. Notamment en fait des boîtes cotées qui servent de benchmark aux boîtes non cotées. Dans tous les domaines, hein, que ce soit dans les, je vais utiliser encore des mots en tech, mais que ce soit dans les fintechs.
On devrait comprendre hein, chez les auditeurs de 40 nuances de Next.
Que ce soit les fintechs, que ce soit les, même dans la tech. La vision qui m'a été partagée, auquel je souscris, c'est, ça va rester calme, en fait, en 2023. Après, néanmoins, les fonds d'investissement ont beaucoup de capitaux
à investir,
nous encore investis, qu'ils vont devoir investir. Et même si les levées de nouveaux fonds ralentissent, il y aura certainement une logique de rattrapage qui aura lieu dans les années à venir, que ce sera en 2024, que ce sera en 2025, mais ça va redémarrer, avec peut-être une certaine correction sur les niveaux
sur les valorisations. Du coup, problématique pour celles et ceux qui ont levé à des hautes valos.
C'est, enfin pour moi, c'est il y a deux ordres de problèmes. Le premier problème, c'est de pas arriver à financer un projet qui est
ça, c'est le premier,
qui est prometteur. Et ça arrive en ce moment, en fait. Ouais. Je connais des projets qui, à mon sens, auraient été financés il y a 12 mois, qui ne sont pas aujourd'hui. Et après, il y a le sujet des valos, mais qui est de second ordre. Et quelque part, une très bonne trajectoire, la tenue d'un business plan, des vrais progrès entre une série C et une série D, peuvent, à mon avis, largement compenser les effets purement contextuels et environnementaux.
Vous êtes à la série...
On a annoncé une série D, mais bon, ça dépend comment tu, oui, ça dépend quelle lettre, ouais, tu donnes à chacun des tours de table. On a fait 4 tours de table.
Ouais. Vous communiquez sur la valo?
Non.
Non. Ok. Non. Donc pas aujourd'hui non plus.
Non. Je la trouve bien, mais, ouais. je pense pas que je puisse partager de chiffres.
Non, pas de problème. Juste pour poursuivre le fil de cette discussion, le sujet de l'exit ou de la croissance aussi externe, vous y pensez? C'est des sujets quand même un moment qu'il faut aborder quand on commence à rentrer dans cette logique de levée série B, série C, série D. On fait rentrer des industriels aussi.
Ouais, en fait, non, on l'a très peu abordé, paradoxalement. Enfin, je me souviens ce qu'on avait dit lors de ma série A, pour commencer, que tout explique quels sont les exits possibles. En fait, c'est de moins en moins. Ouais. On l'a très peu abordé là dans notre dernier tour.
Entre associés, tu veux dire?
Même, ouais, avec nos investisseurs, ouais, entre associés avec mes investisseurs. Parce qu'en fait...
Sur la génération d'après, quoi.
Non, mais la route est encore longue, d'une part. Et d'autre part, je pense qu'il y a un principe qui est très clair. C'est qu'on fera les choix qui permettront de maximiser l'impact de notre industrie. C'est de se dire quelle est la trajectoire qui permet de déployer le plus rapidement possible la plateforme technologique qu'on a développée. Si la solution c'est de s'intégrer avec le numéro un mondial de l'agroalimentaire, parce qu'on est convaincu que c'est ce qui permettra la plus grande célérité de déploiement et donc de résolution d'un problème qui est quand même relativement urgent, qui est
le changement climatique. Et qui est mondial pour le coup.
Qui est mondial, c'est là-dessus qu'on partira. Aujourd'hui, si c'est IPO pour avoir plus de moyens, ce sera IPO. Si c'est continuer en fait à travailler avec les mêmes types d'actionnaires que ce qu'on a à l'heure actuelle, qui fonctionne très bien à mon sens, je suis très satisfait de la façon dont on arrive en fait à de la gouvernance de la société aujourd'hui. Je pense qu'elle nous laisse vraiment nous focaliser sur l'opérationnel, sur l'exécution. C'est ce qu'on fera. Aujourd'hui, le fait d'avoir fait rentrer deux industriels, c'est pour aussi avoir une vraie indépendance. On n'a pas fait rentrer un seul industriel, on a fait rentrer
les deux.
Ouais. Comme ça, en fait, on envoie très clairement aussi le signal que c'est pas un mariage avec un de ces acteurs, mais c'est une alliance avec ces acteurs pour pouvoir en fait construire cette industrie. Et je pense qu'ils l'ont compris. Ils disent, ben oui, si vous êtes la technologie la plus prometteuse dans ce domaine, on est ravis également que vous puissiez vous déployer avec notre concurrent, parce que ça vous permettra d'être plus compétitif, de vous déployer plus vite.
Vous avez pour ambition aussi d'aller, on a parlé de l'alimentation animale, l'alimentation végétale, demain c'est l'alimentation humaine?
Ouais, j'y crois. Je pense que c'est un peu plus moyen terme. Le marché est à construire.
C'est-à-dire quoi? C'est pour projeter, hein, ce que ça voudra dire, c'est un steak sont constitués à base d'insectes. C'est
pour moi, c'est ça prendra la forme d'ingrédients qui seront inclus
dans des recettes,
dans différentes préparations, dans différentes recettes. Un ingrédient, c'est quoi? C'est une poudre de protéines qui peut être inclus effectivement en remplacement de protéines de poids dans des steaks qui peuvent être dans le steak de Beyond Meat par exemple de Impossible Food. Ça peut être de la protéine qui est inclue dans la nourriture pour sportifs à la place de protéines de ce qu'on appelle de whey. Il y a différents autres segments que je trouve prometteurs, qui sont profonds et qui permettront en fait de remplacer des ingrédients qui ont aussi plus d'impact environnemental. Et la raison pour laquelle j'y crois, c'est que l'impact carbone de la protéine d'insecte est significativement inférieur à celle des protéines végétales. Parce que son profil nutritionnel est plus intéressant, sa composition en acides aminés correspond mieux aux besoins de l'homme, et parce qu'en termes de goût, il y a moins d'amertume ou de goût qui doivent être masqués par différents types d'additifs.
D'autres, ok. Donc,
la proposition de valeur intrinsèque est très bonne. En revanche...
Intrinsèque.
La proposition de valeur intrinsèque est très bonne. En revanche, il y a un vrai développement de marché parce qu'aujourd'hui, je pense que le consommateur n'est pas du tout habitué à consommer ce type d'ingrédients.
Ouais, je fais un peu le parallèle avec les éoliennes où tout le monde veut de l'énergie verte, mais alors ça râle dès qu'il y a une éolienne près de chez soi. Entre, tu vois, sur le papier, c'est ce qu'il faut pour l'humain, pour la planète, et demain j'en mange. Il faut révolutionner les mentalités. Il y a un gros travail que vous ne devez pas être les seuls à mener.
Oui, c'est sûr. Et c'est pour moi, en fait, on construit le projet. Pour pouvoir, sur la base des marchés existants, qui sont ceux de la nutrition des poissons, des volailles, du pet food, végétal également. On considère la nutrition humaine comme un upside économique et environnemental à moyen terme, sur lesquels, en fait, on travaille. Et pour le coup, en fait, on est vraiment alliés de l'ensemble des autres acteurs de la filière pour construire cette pédagogie et faire évoluer les mentalités. Mais ça m'amène du temps, ouais. Je suis d'accord avec toi.
Tu parlais tout à l'heure de votre invest à Singapour, de vos invests à Singapour, qui est très leader sur ces sujets d'innovation autour de la food, parce que je crois qu'ils ne produisent que 10% de la nourriture du pays sur place. Et je voyais des reconstitutions biologiques, enfin, j'ai pas bien compris, mais qui reconstituaient du poulet. Tu sauras peut-être mieux m'en parler. Comment tu vois ça?
Alors oui, effectivement, je pense que Singapour est un peu à la pointe des innovations dans le système alimentaire, parce qu'ils ont un objectif de passer de 10 à 30% de leur alimentation qui est produite localement d'ici 2030. Ce qui est hyper ambitieux et qui nécessite des technologies comme le déploiement de l'aquaculture, du vertical farming, des potentiellement des insectes. Et je pense que tu fais allusion à ce qu'on appelle la viande de synthèse.
Exactement.
Dans le vitro, qui consiste à sélectionner des cellules souches, les faire différencier et construire en fait des produits qui ressemblent à de la viande sans animal.
T'as déjà goûté?
Jamais goûté. Ah si, j'ai goûté une fois à Singapour, effectivement. C'est intéressant. Tu fais pas la différence. Je pense que c'est vraiment, c'est vraiment le même produit. C'est quelque chose que je trouve intéressant du point de vue du bien-être animal. Je pense qu'il y a une vraie question sur quelle est la légitimité de l'homme à élever en batterie des animaux. Il y a des investissements significatifs qui ont lieu aux États-Unis, à Singapour, mais aussi en France, avec des sociétés comme Gourmet qui fait ça sur le foie gras à l'heure actuelle, qui a un positionnement assez intelligent, je trouve. Et après, la question, c'est dans quelle mesure la performance... ils vont arriver à diminuer les coûts de production, et quelle va être l'empreinte carbone également de cette production, étant donné les intrants qui sont nécessaires. Et ça, c'est des questions qui sont absolument primordiales, parce qu'en termes de bien-être animal, c'est indispensable. C'est une des variables de l'équation.
Mais
on a aussi des variables d'impact carbone qui sont indispensables.
Et aujourd'hui, on n'y est pas.
Aujourd'hui, il y a du travail encore, mais c'est complètement normal. Ouais. Je pense qu'on est... et puis, il y a des sujets réglementaires qui ne sont pas encore complètement en place, qui se mettent en place progressivement. On est relativement... les produits sont quand même un peu plus loin, relativement loin du marché par rapport à d'autres types d'alternatives.
Avant de te donner les clés du pays et te proposer de prendre les commandes et de passer une loi, il y a un sujet que tu as abordé tout à l'heure, que tu voulais mettre au menu du jour, qui était sur construire une organisation humaine harmonieuse. Et je veux bien que tu développes. Parce que c'est un défi pour n'importe quelle organisation.
Ouais.
D'avoir des gens qui sont heureux de se lever le matin, de venir... Ouais. De participer à un projet.
Ouais. Non, c'est clair. Et je pense que. Et je pense que c'est à la fois une fin en soi et un moyen de réussir un projet. Et c'est ça qui je trouve intéressant. Je pense que quand tu crées une boîte, t'as autant envie de créer un business que créer une organisation humaine dans laquelle tu puisses avoir un mode de fonctionnement que tu réinventes. T'as une logique un peu idéaliste
dans laquelle tu t'épanouis, ouais.
Dans laquelle tu t'épanouis, dans laquelle en fait tu peux en fait essayer de développer des types de comportements qui t'inspirent, une forme d'authenticité, de franchise, de.
C'est un outil pour s'améliorer soi-même.
C'est un outil pour s'améliorer soi-même et c'est une liberté pour construire quelque chose qui correspond plus à ton idéal, là où t'es, la société plus large te frustre au quotidien. T'as plein de et après bon c'est un combat permanent parce que tu y a toujours un écart entre ton idéal et ce que t'arrives à construire, mais mine de rien. C'est un combat qui vaut le coup d'être mené et c'est une des raisons pour laquelle tu crées une boîte.
En tout cas, si tu poses pas l'idéal, tu peux pas l'atteindre.
C'est ça. Je suis d'accord. Et après, sur quoi ça se repose? Ça repose sur un projet qui inspire les gens par son sens, mais c'est pas suffisant. C'est aussi la façon, en fait, dont tu vas prendre tes décisions sur quel type de valeur. Est-ce que t'es capable, l'authenticité, le courage, la franchise, la capacité de dire les choses, la capacité vraiment de se mettre à la place des autres, de prendre en compte en fait leurs besoins, de créer une confiance très forte, une confiance qui est basée sur les relations entre personnes et pas uniquement sur des règles, quelque part là, le lien qui unit les gens qui est presque plus fort qu'un système de règles, c'est encore possible avec une organisation de 350 personnes moi j'attache beaucoup d'importance.
À aucun moment la croissance a tiré un peu sur cet idéal?
Si, mais on arrive à chaque fois à rectifier le tir. En recrutant les bonnes personnes,
qui savent mettre les warnings au moment où c'est nécessaire.
Oui, et puis en fait, de prendre le temps d'en parler, on organise régulièrement des événements annuels qui rythme InnovaFit, ce qu'on appelle un Values Day. On se réunit une journée, en fait, on essaie de sur chacun de nos sites, et on prend le temps de discuter de dans quelle mesure on a été à la hauteur de nos valeurs, à quel moment on n'a pas été à la hauteur de nos valeurs, qu'est-ce que ça signifie pour nous. Souvent, quand il y a des décisions qui sont prises, on utilise notre système de valeurs pour pouvoir les expliquer, les justifier. C'est une décision qui se met toujours, notamment sur la façon dont on gère certaines décisions RH, qui sont sur lesquelles, en fait, nos conseils sont pas d'accord, mais en fait on est prêt à prendre des risques liés.
T'as un truc en tête là quand tu dis ça?
Ouais, mais je peux pas le partager.
Ok.
Mais oui, il y a des fois où, genre, une question qui m'a été posée par une collaboratrice, mon conseil dit non, ne réponds pas à cette question. Et j'avais besoin, en fait, d'être franche. J'ai exposé la société sur un vrai risque, mais j'ai préféré, en fait, partir sur cette manière de répondre.
En fait.
Plutôt, moi, j'ai l'idéal que le lien entre deux êtres humains peut être plus fort qu'un système de règles qui est nécessaire pour régir une société, mais qui a aussi toutes ses insuffisances et ses rigidités. Donc ça c'est et après je pense que avoir une organisation humaine généreuse qui a du sens permet aux gens d'être pleinement investis et de se battre davantage pour faire en sorte de résoudre les challenges monumentaux qu'on a devant nous.
Il y a l'idéal que tu as posé sur le papier. Je pense que beaucoup doivent partager là derrière leurs oreillettes ou leurs casques. Si on rentre dans du très pragmatique, parce que c'est toujours dans les détails que les idéaux se construisent aussi, t'as un tips, une manière d'organiser tout ça que tu peux partager, qui peut être applicable presque indépendamment des boîtes de ceux qui et celles qui nous écoutent.
Je vais y réfléchir et te répondre à ta question, mais moi j'avais compris le concept d'organisation généreuse avec le fondateur de Decathlon qui s'appelle Michel Leclerc. Et je lui dis, mais qu'est-ce que c'est qu'une organisation généreuse Il dit, par exemple, tu vois, cette marque de supermarché n'a pas un système, enfin, n'est pas du tout dans cette logique-là, parce qu'à côté des caisses, ils mettent.
Il parle d'un autre concurrent, d'un autre supermarché, ou il parle de Decathlon, disons.
Il parlait pas de Decathlon.
Voilà,
il parlait pas de Decathlon. Il parlait d'une chaîne d'un autre, qui n'est pas sur le même segment.
Okay.
Une chaîne de grande distribution. Il dit, ce qu'ils mettent à côté des caisses, c'est des sucreries, des barres chocolatées qui coûtent cher, qui sont pas bonnes pour la santé, que les gamins vont demander. Et c'est pas bon pour l'utilisateur, pour le client d'avoir ce type de produit. Mais ils le font quand même. Comment est-ce que tu veux en fait que les employés de cette marque soient fiers de se battre au quotidien,
ouais,
pour faire fonctionner ce business-là, et que c'est le petit profit supplémentaire que tu obtiens en fait en mettant en place cette gondole,
ouais,
démobilise ton organisation, parce que tes employés, et vont faire qu'en fait les gens vont moins se battre pour faire fonctionner ton. Et j'ai trouvé que c'était en fait c'est ça qui m'a fait comprendre ce que c'était qu'une organisation généreuse. Et donc il faut faire c'est ça qu'il faut qu'on arrive à créer, c'est vraiment arriver à créer un système qui est fondamentalement généreux pour tout le monde, pour ses utilisateurs, pour ses clients, pour son écosystème. En fait, quelque part, c'est jamais être un connard, en fait. Hein. Non, mais c'est ça, en fait. Parce que, en fait.
C'est mettre le cynisme de côté.
C'est jamais arnaquer personne. Être tout le temps extrêmement équitable. Parce que le petit gain que tu obtiens en ayant été inéquitable à un moment est extrêmement démobilisateur pour une organisation, en fait.
Sur ces belles paroles, je te propose officiellement de prendre les clés du pays Clément. Demain, tu prends la présidence, tu prends Matignon, tu prends les clés du ministère de ton choix. Qu'est-ce que tu changes? Qu'est-ce que tu fais?
Écoute, moi, je pense que ce qui me frustre le plus, c'est l'apparente manque de marge de manœuvre que l'on
des
a.
Des dirigeants.
Ouais, de dire qu'on n'a jamais le choix. Rentrer dans une logique tout le temps, tout de suite paramétrique, plutôt que se dire qu'est-ce qu'on veut, quelle est la vision, quelles sont nos marges de manœuvre. Je trouve qu'en ce titre, en fait, la réforme des retraites a été assez emblématique. Le débat n'a pas été positionné sur quel est notre rapport au travail, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que ça représente pour nous, qu'est-ce que c'est qu'une retraite, à quel âge on aimerait que nos parents ou nous-mêmes continuent à travailler dans un emploi de bureau, dans un emploi physique, dans un emploi
pour faire quoi.
Et on est, je pense qu'il y avait un débat qui était passionnant à faire, que j'aurais aimé qu'on puisse avoir, et que le mécanisme en découle, mais pas qu'on se dise en fait le mécanisme est en place. Il faut juste qu'on ajuste les paramètres de ce mécanisme pour le faire fonctionner. Et quelque part, c'est mécanique. On n'a pas le choix. Il n'y a pas de marge de manœuvre. Et c'est ce manque d'imagination qui nous fait ignorer les possibilités de marge de manœuvre que je trouve super frustrant. Je pense que souvent, en fait, qu'on utilise pour expliquer le manque de marge de manœuvre, c'est le manque d'alignement entre les différents pays. Si on fait ça et qu'ils ne le font pas, on va se faire avoir. Et c'est assez paradoxal parce que quelque part, on évoquait l'international des travailleurs. Aujourd'hui, c'est vraiment l'international du capitalisme qui fait qu'on est dans une logique de dire qu'on a le système capitaliste est tel qu'il est, il n'y a pas de gouvernement mondial, pas d'alignement sur des décisions qui nous semblent à tout le monde justes, et on est dans une course on n'a aucune marge de manœuvre pour changer les choses, pour imposer différemment les très gros capitaux, les sociétés, pour avoir le système de retraite qui correspond à nos idéaux, le système d'éducation, de santé. Et j'aimerais vraiment qu'on arrive à avoir ce genre de débat, retrouver des marges de manœuvre, investir de façon beaucoup plus massive dans le système d'éducation et de santé qui aujourd'hui, en fait, je pense, se dégrade. Une partie de la population ne les utilise plus. Je pense que l'école, en fait, publique n'est plus pour tout le monde. L'hôpital public n'est plus pour tout le monde. Et je trouve que c'est un des ciments de notre société qui est en train de s'effriter. Mais en ce moment même, en fait, au cours des 10 dernières années et aujourd'hui, il y a des réflexions qui pourraient se poser sur comment est-ce qu'on finance cela. Est-ce qu'on est moi, je pense qu'il y a quelque chose que j'ai jamais compris, c'est pourquoi l'héritage n'était pas beaucoup beaucoup plus taxé. Si on a vraiment en fait une logique d'égalité des chances, d'égalité des chances, pourquoi est-ce qu'il y a un héritage en fait? Pourquoi est-ce que l'État ne capte pas tout l'héritage et le redistribue? Ou même une logique presque, pourquoi pas tout en fait? Pourquoi est-ce qu'il y a un héritage au-delà même de ce qui est déjà transmis en fait en termes de capital non financier d'une génération
à l'autre? Ton éducation, tes écoles,
quelle serait la manne qui serait gagée? Et après, bien sûr, la réponse et la raison pour laquelle j'évoque ça, c'est parce que la première réponse, dire que ça va pas marcher parce que si on le fait et que les autres pays ne le font pas, ça va pas.
Les capitaux partiront ailleurs.
Donc ça, c'est une question en fait effectivement d'alignement et de gouvernement. Mais c'est globalement, pour résumer, je n'ai pas de mesure très, très claire que je vais mettre en place, mais c'est arrêter d'avoir une approche paramétrique, essayer de retrouver les marges de manœuvre et arrêter de dire qu'on a. C'est hallucinant de se dire, en fait, on n'a pas le choix, on est obligé de faire comme ça, tout est mécanique, tout est paramétrique. Je trouve que c'est insupportable, en fait, comme logique.
Ça rejoint bien ton mode de pensée sur InnovaFeed, en fait. La relation, l'idéal, au-delà des règles que tu fixes. Élargir le champ des possibles pour définir ensuite des règles.
Ouais, ouais. Et en fait, je pense que je suis pas forcément très bon à le faire, mais non, mais c'est vrai. En plus, ça c'est typiquement, je trouve que mes associés Aude est infiniment meilleur que moi pour pouvoir voir les choses différemment. Je pense que j'étais très façonné par notre système d'éducation, notre système les milieux dans lesquels j'ai évolué. Mais je vois en fait tout l'écueil de ce système très rationnel, très mécanique, qui nous fait en fait penser que de façon complètement, c'est vraiment un manque d'imagination de penser qu'à notre société, une autre possibilité, une autre façon de voir les choses n'est pas possible. On optimise les choses comme une équation auquel la majorité des variables sont figées, et on est tout de suite dans la résolution de cette équation plutôt que dans l'imagination.
Et donc dans l'innovation.
Dans l'innovation, oui.
Très entrepreneurial comme réflexion. Je renvoie d'ailleurs quand même, ça me fait penser à la carte blanche ou le mois président d'Alexandre Tisserand de Kineis, qu'on avait eu à Vivatech à ce micro, et qui avait un vrai sujet sur l'héritage qu'il partagerait avec toi. Donc, je ne sais pas si vous connaissez.
Non.
Bon. Vous auriez plein de choses à vous dire. Je te propose de poursuivre. I have a dream. On a quand même beaucoup évoqué la notion d'impact écosystémique sur le monde alimentaire de demain. Est-ce que sur la projection du monde dans lequel tu veux vivre, ça fera une belle passe décisive avec ce que tu viens d'évoquer, t'as d'autres thématiques qui tiennent à cœur sur le monde dans lequel, collectivement, tu as envie de vivre? Je sais pas si t'as des enfants.
J'ai deux enfants.
Deux enfants?
Un petit garçon de 3 ans et une petite fille de 1 an.
Ok, félicitations. Tu dors?
C'est pas moi qui les ai fait, hein, mais
on sait que a priori la nature fait ouais. Que ça c'est très paramétrique, mais on pourra pas jouer là-dessus. Il y a d'autres sujets du coup qui te préoccupent, qui t'intéressent.
Ouais, je pense qu'un des combats qu'on a en fait aussi dans la vie, c'est celui de la parité, sur le qui turlupine pas mal. Hein. Et quand je réfléchis un peu à notre parcours, je me rends compte qu'en fait il y a un moment assez fondateur de la boîte, les gens qui nous ont rejoints ont été des femmes. Je pense c'était en 2017-2018, on était nulle part. Je pense à 4 personnes en particulier, à Audrey Schouler, Maëva Rabonne, Sophie Delplanque, Sophie Bénard. Qui nous ont rejoints sur les sujets business, industriels, financiers, au moment où il y avait une prise de risque majeure de leur côté, quitter leur job pour prendre un job qui était, je pense, payé entre 30 et 50% de leur précédent ouais. job. Beaucoup d'incertitudes. On était basé à Évry, à 1h30 de Paris, en fait, en RERD. Mais elles étaient... Les personnes qu'on a recrutées à ce moment-là, c'était majoritairement des femmes hein, qui étaient prêtes à prendre ce risque, parce que
dans une logique, vision,
parce que la vision, mission, un côté ouais. un peu désintéressé, un côté sens, un côté très entrepreneurial. Et en fait, je pense que aucun mec nous a rejoint en fait à ce moment-là avec ce type de contrainte. Et ça, j'ai du mal à réconcilier avec deux choses. D'une part, le fait qu'il y ait aussi peu de femmes qui soient fondatrices de start-up Next 40, par exemple.
Ouais.
Enfin, que ce soit une minorité. Il y en a, hein, mais c'est une minorité. Et également avec les dérives, les tendances naturelles, si tu ne fais pas un effort constant de maintien de cette parité, vers un écosystème où les dirigeants d'une boîte vont être des hommes. Et moi, ce que j'en déduis, c'est que c'est... pas lié à des choix ou des caractères ou des traits de personnalité des hommes et des femmes, mais c'est beaucoup plus environnemental et lié au fait au système. Parce que dans mon expérience, après je pense que, enfin, mais il y a quand même une dizaine de data points, les caractères les plus entrepreneuriaux, les plus désintéressés, les plus capables de prendre des risques ont été des femmes. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a eu, on était très fiers de ça il y a quelques années, et on a dérivé sans s'en rendre compte.
Dans
notre comex, il y a une majorité d'hommes, il y a 60% d'hommes aujourd'hui. Alors que c'était l'inverse il y a 2-3 ans. Et donc, j'en viens à penser qui a nécessité d'avoir une démarche très proactive
ouais.
d'équilibre, presque de quota quelque part, dans toutes les instances de direction, que ce soit un COMEX, un board, l'Assemblée nationale. Parce que quelque part, c'est ce système de quota qui va permettre de stabiliser une situation. Pas uniquement parce que ça va donner des opportunités à des femmes, mais aussi, je pense que cet écosystème paritaire va permettre de construire le système dans lequel, en fait, qui offre des chances et qui convient aussi bien à des hommes que des femmes. Donc, je vois, en fait, le système de quotas comme un moyen de transformer, en fait, le système de manière en fait à pouvoir le rendre de façon pérenne et durable, vraiment équilibré pour les hommes et pour les hommes et pour les femmes. Et je le vois même en termes de dynamique. Enfin, ça, je pense que c'est un peu un lieu commun, mais la valeur que ça apporte, hein, parce que dans nos discussions de Comex, par exemple, il y a plus de mecs, c'est bien un peu une discussion de Bosman. Il y a les sujets d'ego qu'on évoquait, qui sont plus forts. Il y a une question de positionnement. Et je trouve que ce qu'apporte, en fait, la dynamique, est indispensable pour avoir un groupe fluide et efficace. Donc, moi, c'est une des choses sur lequel j'ai envie qu'on se batte et qu'on soit un peu plus proactif quelque part et qu'on se repose pas sur nos lauriers, quoi.
Donc, le quota dans les entreprises, le parental act qui peut peut-être avoir un impact indirect. Tu laisses plus de place aux hommes au moment de la naissance de leurs enfants. C'est peut-être moins un sujet dans les entreprises de place qu'on est prêt à laisser aux hommes ou aux femmes en fonction du temps qui passeront loin du bureau.
Oui, je pense que ça en fait partie, mais je trouve comme un levier. Je le vois comme un levier de sérénité et quelque part d'idéal de société. Je le trouve moins fort en fait
en impact
sur la parité que juste ce système de quotas. C'est-à-dire que juste tu dois en fait avoir un comex paritaire, quoi. Et si tu fais pas cet effort, bah naturellement en fait dans le domaine industriel, tu vas pas y arriver en fait.
Et sur l'égalité salariale, ça aussi c'est un sujet.
J'ai vu les mêmes dérives que j'ai évoquées en fait au sein du Comex et ça m'a.
C'est lié aux demandes des uns et des autres. Je veux une augmentation.
Ben, je pense qu'il y a. C'est clairement quelque chose qu'on avait identifié comme un risque.
Ouais.
On avait une volonté très forte d'avoir une politique salariale qui dépende absolument pas de ce que demandent les gens. Donc ouais. De pas avoir trop de discussions sur ce sujet. Néanmoins, en fait,
c'est-à-dire il y a des règles qui sont très claires.
Ouais, exactement.
Ouais.
Exactement. C'est très, pour le coup, c'est très paramétrique, très mécanique. Ce sujet
permet justement d'éviter les distorsions.
Tu construis le système. En fait, on a construit un système où en fait, la rémunération dépend du niveau de seniorité dans la société et du niveau de performance. Ne dépend pas de la fonction. Donc, quelqu'un qui a le même niveau de seniorité dans la fonction finance ou la fonction R&D, à une performance qui vend, va avoir le même salaire. T'as un
comment
modèle.
Comment tu juges une performance équivalente entre de la R&D, de la finance, du commercial,
C'est, quelque part, les managers qui définissent le niveau de
d'attente, c'est tes objectifs
de performance au cours des 12 derniers mois, est-ce que les objectifs sont atteints, est-ce qu'ils sont pas atteints, est-ce qu'ils sont atteints partiellement, est-ce que quelle mesure tu les as dépassées. Et puis il y a aussi en fait ce qu'on appelle des people review, dans lequel en fait il y a une vérification que le niveau d'exigence des différents managers est équivalent et que ta gaussienne fonctionne correctement, qu'il n'y a pas un manager qui met tout le monde à droite et l'autre tout le monde à gauche parce que c'est pas le même niveau de ce qui est essentiel dans le système de rémunération, c'est l'équité.
Ouais.
Ça c'est absolument primordial. Et donc du coup, oui, à niveau de performance, il y a une augmentation qui en découle, mais qui est indépendante de la fonction. On se fait beaucoup challenger là-dessus, mais c'est un moyen parce que le marché ne fonctionne pas comme ça.
Très intéressant.
Le marché fonctionne avec les gens qui font de la finance sont mieux payés que les gens qui font de la R&D. Nous, en fait, on a aussi dans une logique un peu idéaliste de dire, on fait tous le même projet, on y contribue en fait dans des fonctions différentes. Mais ce qui compte, c'est le niveau de seniorité, le niveau de performance, et que on se distingue un petit peu on essaye de s'affranchir de règles exogènes qui nous conviennent pas trop.
Waouh ! Ça arrive de prendre des claques. Quelle est la tienne, Clément ?
Bon, je pense que j'ai compris que le projet de Innovafi n'était pas un sprint, mais un marathon. On avait fondé le projet en mai 2016. On avait réussi à construire notre site pilote, donc un investissement de 10 millions d'euros, où on a construit le bâtiment, le process pour novembre 2017, la production a démarré. J'ai l'impression que j'avais fait le plus dur du projet d'Innovafeed. C'est quand même...
Mais non.
Et puis c'était juste le début des galères. On a mis 9 mois à produire notre première tonne de protéines. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on produit par chaque heure, en fait. Ouais. Et ça a été le début de galères. T'es arrivé lundi matin sur le site. Quelque part, tout était à recommencer. Ta production avait était morte. Tu comprenais pas pourquoi. Et donc là, tu te rendais compte qu'en fait, ça serait pas un an de sprint, mais ça serait 5 ans, 10 ans, et que ce serait plus un marathon et qu'il fallait trouver en fait aussi un rythme de vie, un équilibre qui était pérenne.
Comme le temps est très serré, je prolonge pas là-dessus. J'ai juste un dernier point que j'aimerais voir avec toi, et tant pis si on n'aura pas eu le temps de parler plus de l'homme derrière l'entreprise. Ce sera peut-être l'occasion de se retrouver
avec plaisir,
Clément, mais on te laissera pas partir sans ce dernier sujet. T'évoquais tout à l'heure l'importance de la parité, le nombre d'entrepreneurs encore féminines encore trop peu présentes au Next 40. Ben nous, on le fait à notre manière. On demande aux entrepreneurs du Next, hommes et femmes, mais surtout hommes du coup, de choisir une femme qu'ils admirent et à qui on va donner la parole à ce micro, à celui de Solène Etienne.
Ok, je pense que vous devriez parler à Charlotte Schwelling, fondatrice de Lysaqua, qui construit un... Ils construisent avec ses associés un très beau modèle d'élevage local de gambas, qui je pense est l'avenir aussi. Et c'est le même type de challenge que ce qu'on vit chez Innovafeed.
Je te propose de lui poser une question qu'on lui diffusera telle quelle. Tu peux la tutoyer ou la vouvoyer selon votre mode de communication et on lui partagera.
Quand est-ce que tu nourris tes gambas avec de la protéine d'insecte, Charlotte?
Et une cliente en plus. Clément, un immense merci. C'était un grand bonheur de t'avoir dans ce podcast et de se projeter pour la prochaine génération.
Merci pour cet échange.
40 nuances de Next.
Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.